le groupe des ados qui est avec nous. C'est la première fois peut-être, hein, puisque c'est la première fois depuis la rentrée qu'il y a des vacances. Non, vous êtes habitués. Pour ce temps de prédication, je vais lire dans la lettre à Tite. Et ce que je vous propose, les ados, c'est avant de commencer à prêcher, je vais vous demander ce que vous avez compris de cette lecture. Et puis les adultes, vous pouvez aussi chercher à comprendre et vous demander ce que vous avez compris de cette lecture avant que je ne la commente. L'épître de Paul à Tite, donc c'est dans la fin du Nouveau Testament, entre 1 et 2 Timothée et Philémon Hébreu. L'épître à Tite au chapitre 1. Alors, le texte sur lequel je vais prêcher, c'est les versets 5 à 9. Mais pour mettre dans le contexte, je vais aussi lire les versets 1 et 4, et puis aussi les versets 10 et 11. Même si on fait un zoom sur les versets 5 à 9, on va lire 1, 4 jusqu'à 11. Paul, esclave de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, selon la foi de ceux qui ont été choisis par Dieu et selon la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, dans l'espérance de la vie éternelle, à Tite, mon enfant véritable selon notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu mettes bon ordre à ce qui restait à régler et que tu nommes des anciens dans chaque ville selon ce que je t'ai moi-même prescrit. Si s'il trouve quelqu'un qui soit sans reproche, homme d'une seule femme, ayant des enfants croyants, qui ne soit ni accusé de débauche ni insoumis, il faut en effet que l'épiscope soit sans reproche, puisqu'il est un attendant de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté au gain honteux, et qu'il soit hospitalier, ami du bien, pondéré, juste, saint, maître de soi, attaché à la parole, authentique, telle qu'elle a été enseignée, pour pouvoir encourager par l'enseignement saint et réfuter les contradicteurs. Il y a en effet beaucoup d'insoumis, de discours futiles et de marchands d'illusions, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche. Ils bouleversent des maisons entières en enseignant ce qu'il ne faut pas, pour des gains honteux. Voilà notre lecture. Alors, est-ce que vous avez compris de quoi parle ce texte, Nathanaël? Tu valides ce que dit ton frère, des hommes justes? Donc Paul qui dit d'aller dans les villages choisir des hommes justes. Oui. Luc, tu voulais ajouter? Continuer à les former sur la parole. Tu as bien noté ça, effectivement. Est-ce que vous avez relevé autre chose? James? C'est Paul qui dit à Tite. Voilà, tout à fait. Pour être tout à fait précis, c'est Paul qui dit à Tite, absolument. Paul qui dit à Tite d'aller dans les villages choisir des hommes justes et insister sur les former sur la parole. C'est pas mal ce que vous retenez. Dans ce texte, Paul demande à Tite de choisir des responsables pour les églises. Les responsables pour les églises. Et si j'ai choisi ce texte, c'est parce que notre église, en février prochain, va chercher à renouveler son conseil, rechercher à renouveler ses responsables. On va devoir les choisir. Et donc, c'est pas mal d'avoir des critères bibliques. Et j'ai choisi ce texte pour nous éclairer. Mais en quoi est-ce que ce texte nous aide? Est-ce que vous vous sentez aidé par ce texte? Est-ce qu'il est limpide pour vous? Je ne sais pas pour vous. Hein, moi, je vous avoue que je suis un peu dubitatif. En tout cas, ce texte a nécessité du travail pour le comprendre et surtout comprendre comment l'utiliser, comment l'exploiter. Déjà, il faut prendre conscience d'une chose que ce texte n'est pas. Ce texte n'est pas un traité d'ecclésiologie. L'ecclésiologie, c'est la discipline de la théologie qui discute de comment l'Église doit être organisée. Et ce n'est pas un texte théorique qui nous explique comment l'Église doit être organisée. Elle ne parle pas de structure, elle parle d'anciens, d'épiscopes, mais est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce que c'est les mêmes choses? Et puis de toute façon, ces termes, est-ce qu'on les comprend bien? D'autres Bibles traduisent « responsable »,« dirigeant ». Peut-être que ça nous parle plus. Ce texte cite ces titres, mais il ne décrit pas leur rôle. Et chaque chrétien qui lit ce texte, qui lit ce texte en venant d'une tradition d'église différente, voit curieusement des choses différentes dans ce texte. Un catholique voit expliquer le ministère de l'évêque, quand d'autres églises évangéliques voient là la justification qu'une église doit être pilotée par un collège d'anciens. On retrouve bien les structures auxquelles on a l'habitude. La vérité, c'est que le Nouveau Testament témoigne d'une diversité d'organisations dans les églises. Les églises du Nouveau Testament ne sont pas toutes organisées pareilles, et rien que comparer la lettre de Paul à Tite, juste avant, à Timothée, juste avant, et celle-ci, nous montre que les églises dans lesquelles il a envoyé Timothée et Tite ne sont pas pareilles au niveau de l'organisation. Et quelque part, je crois que le Nouveau Testament nous montre un modèle. L'Église n'est pas faite pour rentrer dans une structure définie, mais quand l'Église fait face à un problème, alors elle met en place une solution conduite par l'Esprit. Donc ce texte ne nous dit pas comment l'Église doit être organisée. Deuxième chose, il faut prendre conscience que ce texte est écrit dans un contexte particulier. Vous l'avez bien vu, les jeunes, Paul écrit à Tite, deux personnes réelles qui se connaissent, et Paul a donné une mission précise à Tite. Paul, c'est un implanteur itinérant qui a fait le tour de la Méditerranée pour implanter des églises, et c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Et dans cette équipe, il peut laisser des personnes à différents endroits selon les besoins. Et par exemple, il a laissé Timothée à Éphèse pendant un temps dans cette église qui n'allait pas top pour qu'il remette les choses d'aplomb. Et il laisse Tite en Crète. La Crète, c'est une île à côté de la Grèce. Et là, on comprend qu'il y a plusieurs églises et que Tite doit s'occuper de ces églises. Et donc, qu'il doit choisir des responsables, des anciens pour ces églises et qu'il doit mettre de l'ordre dans ces églises. C'est ce que nous avons lu. On comprend en lisant que la Crète, c'est un contexte compliqué et les commentateurs imaginent que ce sont de jeunes églises qui ne sont pas encore structurées et c'est pour ça qu'il y a ce besoin. Donc le texte ne nous dit pas comment l'église doit être organisée, il ne nous dit pas directement comment nous devons choisir nos responsables. Paul s'adresse à Tite. Alors qu'en tirer ? Que tirer de ce texte? Ce que je vous propose, c'est déjà de prendre dans un premier temps de regarder ce qu'il dit et ensuite de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que notre texte dit sur les responsables d'église? Il y a une liste de points qui sont cités et je vais simplement les prendre dans l'ordre et les commenter. Le premier point, c'est que l'ancien ou épiscope, les deux termes, Paul change de terme au milieu de son exposé, et on peut penser qu'ils sont équivalents. L'ancien doit être mari d'une seule femme. Alors, certains voient dans cette expression un point qui explique que seuls les hommes peuvent être responsables. La question de la place de la femme en tant que responsable, c'est une question complexe. Et pour y répondre, il ne faudrait pas se baser juste sur ce bout de verset, mais regarder tout le dossier. Ceux qui sont contre le fait de confier des responsabilités aux femmes s'appuient sur d'autres versets plus fortement que celui-là. Et ceux qui sont pour, dont nous sommes, s'appuient aussi sur d'autres versets, en particulier sur le témoignage de la place de Paul dans les équipes, de la place, pardon, de la femme dans les équipes mises en place par Paul. On a entre autres le chapitre 16 de Romains qui montre les collaboratrices de Paul. Mais réduire cette expression « mari d'une seule femme » à cette question de « est-ce qu'une femme peut être responsable ou pas ?» c'est passer à côté de l'essentiel de cette expression. « Mari d'une seule femme », qu'est-ce que Paul veut dire par là ? Est-ce qu'il rejette la possibilité pour quelqu'un qui est polygame d'être responsable d'église ? Il faut être monogame. Est-ce qu'il veut dire qu'il est obligatoire de se marier ? Mari d'une seule femme, donc quelqu'un qui n'est pas marié ne peut pas être responsable. Est-ce qu'il veut dire que par là qu'il interdit le remariage aux responsables après un veuvage ou après un divorce ? Est-ce qu'il veut dire que c'est quelqu'un qui doit être fidèle, qui ne doit pas vivre dans l'adultère ? Toutes ces hypothèses, elles sont explorées par les commentateurs. Je crois que par cette expression, Paul insiste sur le besoin de fidélité, de ce que le responsable se contente de son conjoint, qui lui est fidèle. Et même pour aller plus loin, hein, et ceux qui ont eu l'occasion de suivre une préparation au mariage avec notre Église le savent, la fidélité, ce n'est pas seulement ne pas avoir de relation avec quelqu'un d'autre. La fidélité, c'est quelque chose de positif. La fidélité, c'est être fidèle aux promesses qu'on a faites lors de son mariage. Promesse d'aimer, promesse de prendre soin. Et je crois que là, Paul est en train de dire que celui qui peut être choisi comme responsable, eh bien, on voit dans son mariage qu'il prend les choses au sérieux et les engagements au sérieux pour vivre ce à quoi il s'est engagé. C'est quelqu'un qui aime son conjoint et qui en prend soin. Ça, c'est le premier point que Paul cite. Et ensuite, le deuxième, plus surprenant encore, que ses enfants soient croyants. Je ne sais pas comment vous le recevez, je trouve ce point surprenant, surprenant pour nous, à notre époque moderne, que la qualification pour que quelqu'un soit en responsabilité ne dépend pas de lui, mais dépend d'autres. Elle dépend de ses enfants. Alors que nous, on est dans une civilisation où on est vraiment individuel, on prend une décision pour nous-mêmes, et c'est, on attend nous-mêmes à être jugés et examinés pour avoir, pour être jugés. Pourquoi cette exigence ? Je disais, dans un commentaire, une remarque intéressante. La Crète, c'est un contexte de conversion récente. L'Évangile est apparu récemment. Et sans doute, par cette ordonnance, Paul dit que les responsables doivent avoir fini d'évangéliser leur famille et leurs enfants, que leurs enfants soient également devenus chrétiens avant de pouvoir s'occuper d'une église. C'est quelque chose d'intéressant, effectivement. Hein. Si on a à cœur que nos enfants se convertissent, la priorité, elle est là. Elle est dans nos familles, avant d'avoir des prétentions de s'occuper de choses plus larges. Mais je suis aussi interpellé par le fait que le comportement des enfants dit aussi quelque chose sur nous-mêmes. Dit aussi sur quelque chose sur l'éducation qu'on leur communique. Alors, pas tout le temps. Les enfants font parfois leur propre choix. Hein. Et j'en veux pour preuve la parabole que Jésus cite dans l'Évangile, la parabole du fils prodigue, où Dieu est décrit comme un père qui a deux fils, un qui veut mener une vie dissolue et un autre qui vit une vie aigrie. Et pourtant, c'est Dieu. Et il a deux enfants comme ça qui sont pas top. Donc, sans être complètement responsable du choix de ses enfants, je crois que on devrait quand même se laisser interpeller et se souvenir que les enfants montrent par leur comportement la façon dont on investit sur eux. Et Paul invite à jeter un œil à ça lorsqu'on choisit les responsables de l'Église. Après avoir regardé la famille du responsable, Paul liste toute une liste de choses à éviter, de choses négatives à éviter, et de choses positives à rechercher chez le responsable. Alors, j'ai relevé 5 choses à éviter. Il ne doit pas être arrogant, c'est-à-dire orgueilleux, imbu de lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui se met en avant, qui pense qu'il a plus d'importance que les autres, à éviter. De même, éviter quelqu'un de coléreux, qui se met en colère, et surtout qui agit sous l'emprise de la colère. Je crois que la colère est une émotion qui nous informe de la façon dont on ressent les choses, et c'est bon de l'écouter, mais si elle nous pilote, alors il y a un problème. Le responsable ne doit pas être adonné au vin, il ne doit pas être buveur, c'est-à-dire quelqu'un qui boit trop, c'est jamais bon. Ça nous entraîne dans un terrain où on peut perdre le contrôle, se mettre dans une situation où on peut faire des bêtises. Alors c'est toujours difficile sur la boisson parce qu'on va toujours dire qu'on ne boit pas trop et qu'on se maîtrise. Mais quelqu'un qui préfère être raisonnable plutôt que de poursuivre dans son plaisir et dans son confort. Également, le responsable ne doit pas être violent. D'autres traductions disent agressif, querelleur. C'est pas exactement la même chose que coléreux qu'on a vu tout à l'heure. La colère qu'il faut éviter, c'est celle qu'on subit et qui nous contrôle. Mais là, ce qui est à éviter, c'est quelqu'un qui va au contact de façon agressive pour impressionner, pour faire passer en force nos positions. Et dernière chose à éviter, il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit porté sur les gains honteux. Qu'est-ce que les gains honteux ? J'aime bien cette phrase qui dit que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent n'est pas mauvais en soi, c'est un bon serviteur qui aide à faire plusieurs choses, mais à partir du moment où il devient notre maître, à partir du moment où on veut en gagner toujours plus, là, il y a problème. Et si le but, c'est d'en gagner et de le faire par tous les moyens, c'est incompatible avec les responsabilités dans une église. Voilà pour une liste des choses que le responsable ne doit pas être, mais il y a aussi des choses positives, des choses que le responsable doit être. 6 choses à rechercher. La première, c'est qu'il doit être hospitalier, c'est-à-dire prêt à ouvrir à sa maison. Je crois que c'est un geste qui montre la générosité, accepter quelqu'un chez soi, dans son univers, accepter d'ouvrir les portes du lieu où on se protège. C'est un signe important. Il doit être ami du bien, c'est-à-dire aimer ce qui est bon. Ce qui lui fait plaisir, ce n'est pas la victoire de son équipe de rugby préférée ou une nouvelle saison de sa série préférée, c'est quand quelque chose de bon arrive, une réconciliation ou le plaisir de voir quelqu'un progresser. Ça me fait penser à ce verset de 1 Corinthiens 13, le verset 6, qui dit que, à propos de l'amour, que l'injustice l'attriste, mais la vérité le réjouit. Les bonnes choses réjouissent. Le responsable doit être aussi pondéré, c'est-à-dire équilibré, raisonnable, réfléchi, Il doit être juste. Il ne commet pas d'injustice, il ne fait pas de préférence. Il doit être saint, c'est-à-dire attaché à Dieu. Et enfin, il doit être maître de soi, c'est-à-dire ne pas se laisser dominer par des pulsions, par ses émotions, mais arriver à se contrôler. Que penser d'une telle liste, une telle liste double? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une checklist, hein? Je coche en regardant les différentes personnes. Est-ce que c'est seulement possible de tout cocher pour une personne? Celui qui cocherait toutes ces cases, waouh, quel homme! Je crois que cette double liste dessine un portrait qui doit nous inspirer, un portrait, un modèle de quelqu'un qui évite le mal et qui pratique le bien. Quelqu'un qui met en pratique l'enseignement de la Bible. En effet, dans ce qu'on a lu là, il n'y a rien d'inédit. Tout ce qui est là, toutes les choses à éviter, toutes les qualités à rechercher, on les retrouve ailleurs dans la Bible. Le responsable est donc quelqu'un qui prend l'enseignement en sérieux et qui se laisse transformer, qui se transforme pour être conforme à ce que l'Écriture attend. Il y a un dernier point. En plus de toute cette liste qui explique comment le responsable doit être, il y a une attitude plus spécifique. Il doit être attaché à la parole authentique. Et ça, plus que une qualité personnelle, c'est quelque chose de plus chrétien, de plus spécifique. Et c'est la seule qualité spécifique qui est citée, elle mérite notre attention. Attaché à la parole authentique, quelqu'un qui a une passion pour la parole de Dieu. La Bible, c'est un peu gros, mais finalement, au bout d'un certain temps, on l'a lu. Celui qui est attaché à la parole de Dieu, c'est celui qui la lit, qui la relit, qui aime y revenir, qui aime l'étudier. Et il aime cette parole, Paul dit, telle qu'elle a été enseignée, c'est-à-dire telle que les apôtres l'ont transmise. Il le dit à Tite, qui n'a pas encore de Bible imprimée entre les mains. Mais à notre époque, il nous le dit à nous aussi. Cette Bible, ce Nouveau Testament, qui nous ont été transmis, c'est là la référence. La référence, elle n'est pas dans tout ce qu'on peut entendre par ailleurs, qui peut être intéressant, mais qui n'a pas le même poids que la Bible transmise par les apôtres. C'est une façon de rejeter l'enseignement des enseignants itinérants qu'on trouve au 1er siècle, qui viennent apporter dans les églises des nouvelles révélations qu'ils ont reçues. Je crois que pour nous aussi, c'est l'occasion de rejeter des avis qu'on peut entendre. Parfois, hein, on entend « pour moi, c'est ça ». Ah oui, mais ce qui compte, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour toi, c'est pour la Bible. Attaché à la parole authentique parce que le responsable a besoin d'enseigner, encourager, réfuter. Alors, il ne s'agit pas forcément de se tenir devant tout le monde pour une prédication, mais encourager et réfuter. Encourager les chrétiens, ceux qui s'attachent à l'enseignement saint, ceux qui avancent dans la voie de la transformation, qui progressent, qui luttent, qui sont parfois découragés de voir qu'ils n'avancent pas assez vite vers l'objectif qu'ils veulent, vers la transformation, d'être toujours plus semblable à Dieu. Eh bien, il faut continuer à les encourager, leur montrer les progrès qu'ils ont faits et ce qu'ils peuvent continuer à faire. Et puis, il est aussi nécessaire de réfuter les contradicteurs. Soit qu'ils cherchent à relativiser la parole, à dire que tout ça, c'est un idéal, il n'y a pas besoin de faire autant d'efforts, on peut faire ce qu'on veut. Ou alors ceux qui, au contraire, veulent faire peser un poids trop lourd, qui viennent répéter « un bon chrétien doit faire ceci ou cela », vous devez faire toujours plus pour être à la hauteur. Il y a une ligne d'équilibre à tenir, une ligne d'équilibre que tient Jésus dans sa prédication, à la fois exigeante et à la fois qui rejette le poids trop lourd que font peser certains sur ceux qui essayent sincèrement. Oui, le responsable d'église est un enseignant. Et en relisant ce texte, il me revient en tête ce que nous avait dit Étienne Lermeneau il y a quelques années. Étienne Lermeneau, professeur de Nouveau Testament, quand il était venu ici, alors que nous réfléchissions au choix d'un pasteur. Et il nous avait dit que le pasteur, je crois le responsable également, doit être un enseignant qui a une très bonne connaissance biblique, une bonne réflexion personnelle et une assez bonne technique de communication. Le but de l'enseignant, ce n'est pas d'en mettre plein la vue, c'est avant tout d'être attaché à la parole. Voilà donc pour le portrait que dresse Paul du responsable. Et du coup, j'en viens à ma deuxième question. Qu'est-ce qu'on en tire pour nous aujourd'hui ? C'est sympa de savoir ce que Paul recommandait à Tite, mais nous, aujourd'hui, en quoi est-ce que ça nous concerne ? Déjà, qu'en tirer ? Moi, il y a la première chose que j'aimerais retenir, c'est que je crois que nous devons prendre conscience que nous avons besoin de responsables. On peut se dire qu'on n'a pas besoin d'organisation, qu'on est bien ensemble et que ça suffit. Mais la vérité, ce que montre l'histoire et ce que montre la Bible également, c'est que c'est difficile à faire marcher. Et dans ma lecture personnelle, je viens de relire le livre des Juges, qui est le meilleur exemple, je crois, de comment, quand on part juste avec la bonne volonté et puis que chacun fait comme il le sent, eh bien, ça devient affreux. C'est le refrain du livre des Juges. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait comme bon lui semblait. Et franchement, si vous lisez la conclusion du livre des Juges et à quel point il tombe, c'est affreux. On le voit aussi hein, dans Acte 6, la jeune église, toute dynamique à Jérusalem. Eh bien, au bout de quelques temps, ils ont un problème parce qu'ils n'arrivent plus à gérer. Il y a trop de monde, ils n'arrivent plus à aider toutes les veuves sans ressources, et il y en a qui sont délaissées, et ça crée des tensions. Et pour l'enseignement, également, il est important d'avoir des responsables. On le voit en Crète, on le voit aujourd'hui aussi. On est enseigné partout. Des livres, on trouve toutes sortes de livres, et plus encore, sur Internet, on publie toutes sortes de choses, certaines très bonnes, d'autres très mauvaises. Et même dangereuse. Il est besoin d'avoir une référence théologique, quelqu'un qui puisse, sans avoir réponse à toutes les questions, en tout cas nous guider dans cette forêt dense de propositions dont toutes ne sont pas bonnes, et quelqu'un qui nous rassure. Nous avons besoin de responsables. Ce qui marche quand on est un petit nombre ne marche plus quand on grandit. Et comment choisir ses responsables ? Je pense qu'une bonne chose, c'est garder en tête le portrait que nous avons lu, le portrait qui se trouve au chapitre 1 de Tite. Le garder en tête non pas comme une checklist hein, qu'on cocherait pour voir si un tel est bon ou pas. Peut-être même il faudrait l'actualiser, le monde a changé, et peut-être est-il intéressant que le responsable, par exemple, ait une conscience écologique, mais écologique au sens large, c'est-à-dire conscient de ce que l'homme a comme impact sur son environnement, sur la nature, sur les populations exploitées par notre désir de consommation. Quelqu'un qui ait conscience de ça et qui ne soit pas juste un consommateur de façon irréfléchie. Peut-être c'est une façon d'être pondéré pour aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait aussi préciser que le responsable d'église devrait faire attention à ce qu'il regarde. Aujourd'hui, avec tous les écrans qu'on a, avec l'accès hyper facile à la pornographie, mais également à toutes sortes de programmes, toutes sortes de sites qui ne sont pas toujours utiles, qui prennent notre temps et qui orientent notre pensée et, nos préoccupations. Donc voilà, peut-être ça vaut le coup d'ajouter quelques éléments plus actuels, mais en tout cas, on a là une liste intéressante, un portrait intéressant. Et me souvenir que le plus important dans ce portrait, je crois, c'est que c'est quelqu'un attaché à la parole, aussi bien par attachement personnel, par amour, que par passion de transmettre à d'autres, d'encourager, de corriger ceux qui répandent des choses mauvaises, de contribuer à ce que la parole habite au milieu de la communauté, qu'elle circule, qu'on puisse se dire les uns aux autres des choses bonnes basées sur la parole juste. Donc quelqu'un attaché à la parole, qui a l'amour de cette parole, qui veut qu'elle habite dans la communauté, et quelqu'un qui la met en pratique dans sa vie, dans ce qu'il ne fait pas et dans ce qu'il fait, dans sa vie personnelle et dans sa famille. La façon avec laquelle il vit avec son conjoint, la façon dont il éduque ses enfants, il met en pratique la parole. Un autre point qui me semble important dans ce portrait, c'est que le plus important pour être responsable, c'est l'être. Moins les compétences que l'être, moins le savoir-faire que le savoir-être. Est-ce que cela vous étonne ? Est-ce qu'il ne faut pas quand même quelques compétences pour être responsable d'église ? Du leadership, de la communication, une bonne écoute, que sais-je. Dans l'Église, la fin ne justifie pas les moyens. Et la chose la plus importante, c'est d'être attaché à Dieu. Et la technique, on trouve toujours quelqu'un pour nous aider. Surtout si le responsable est humble, s'il est bon dans les rapports humains, qu'il vit l'amour, alors il trouvera où se faire aider. Ce qu'il faut rechercher avant tout, c'est l'être. Après, je crois qu'il est bon d'avoir des critères. Sans critères, sinon, comment on fait ? On choisit au feeling. Moi, je me souviens de ce pasteur au début des années 2000 qui a été refusé par une église parce qu'il ne maîtrisait pas l'outil informatique. Est-ce finalement si essentiel que ça comme qualification pour conduire une église ? Sachons-le, on est toujours influencé par quelque chose dans nos choix. Poser des critères nous aide à nous en dégager. On a souvent des modèles. On aimerait qu'un pasteur, qu'un ancien, qu'un membre du conseil soit comme on imagine, soit comme une personne qu'on a connue et qu'on a appréciée. Ou alors on a des contre-modèles, une mauvaise expérience, des traits qu'on ne veut pas retrouver chez quelqu'un d'autre qui disqualifient à nos yeux. Mais si on a un modèle, ce devrait être Jésus et non pas les responsables qu'on a croisés. Donc c'est intéressant d'avoir des critères de se poser avec la Bible pour les rechercher et les établir, de prendre du recul, de regarder Jésus, de regarder l'enseignement du Nouveau Testament. Et puis, dernière chose que j'aimerais dire aussi à retenir de ce texte, c'est que je crois que ce texte ne concerne pas que les autres. Ce texte ne concerne pas que les responsables. Paul n'est pas en train de dire « le monde se divise entre deux catégories ». Il y a les responsables, ceux qui veulent être, et alors là, il faut être exigeant, et puis les autres qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Je crois que le modèle qui est tracé là, c'est le modèle qui concerne tout le monde. Comme je le disais, on le retrouve dans l'enseignement biblique, dans l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est le modèle qu'on vise. Et finalement, ce qu'on est appelé à choisir comme responsable, c'est des gens qui sont un peu en avance par rapport à la communauté sur le chemin. Mais le chemin comprend tous. Et lors du culte de rentrée, j'avais pris cette image de la course qu'on court ensemble. Et une course étrange parce que même si on court ensemble, il y en a qui courent depuis longtemps alors qu'il y en a qui viennent d'arriver. Et on est ainsi, mélangés, des gens avec des maturités différentes. Mais on vise tous la même chose. Et le portrait que nous avons lu dans le premier chapitre de Tite est une cible que nous pouvons viser pour nous-mêmes. Voilà donc ce que nous pouvons tirer de ce passage. En cherchant des responsables, nous découvrons aussi ce qui nous attend nous-mêmes. Et je pense que ce serait bien de prendre ce texte comme un encouragement à poursuivre la route et à poursuivre sur ce que nous devons viser. Nous souvenir de ça alors que nous réfléchissons au prochain responsable, et l'Église sera sollicitée pour ça comme elle l'a été la dernière fois, mais à prendre aussi un temps par rapport à nous-mêmes, savoir où nous en sommes, les viser de continuer dans notre sanctification. Alors je vous invite à un temps de silence pour réfléchir à ça, et je conclurai par la prière. Seigneur, nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes plongés, qui a toutes sortes de valeurs et qui nous attire. Et c'est facile pour nous de suivre sa marche, suivre son rythme. Or, Seigneur, tu nous appelles à être différents dans ce monde, non pas le quitter et vivre en reclus, y être présent, mais à vivre différent, selon le modèle de Jésus, selon l'enseignement de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et de la Bible. Guide-nous, Seigneur, sur ce chemin. Et j'aimerais aussi te prier que, pour nous aider à le suivre, tu nous aides à discerner les responsables que tu as prévus, en particulier ceux qui vont nous enseigner et qui vont faire en sorte que ta parole habite au milieu de nous. Je te prie que tu conduises cette communauté, toi Seigneur Jésus, toi qui es le bon berger, toi qui es la tête de ton Église. Aide-nous à toujours te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen.